pour remettre à demain. Tu m'empêches de grandir, tu m'empêches de vieillir, tu m'empêches de sortir. Paranoïa, tu me prends par la main comme une excuse pour remettre à demain. Tu m'empêches de grandir, tu m'empêches de vieillir, tu m'empêches de sortir.
Bon dimanche midi à tous. Bienvenue à des Kiwis et des Nerds, l'émission la plus fruitée de la Norderie. Donc encore moi, Jérémy Thibault, toujours aussi tannant, accompagné de deux Kiwis que vous commencez à connaître. Donc Mick Landry, bonjour.
Bonjour.
Et William Blanchet.
Oh là.
Et donc on va commencer sans lubrifiant pour les anecdotes. Sans lubrifiant. Pourquoi j'ai dit ça?
Feeling naughty.
Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de copine. Donc plus sérieusement, au niveau des anecdotes, vous, est-ce que vous en avez qui sont marrantes, que ce soit de jeux de rôle ou autre? Qu'est-ce que vous avez fait d'un peu nerd cette semaine?
Oh, d'un peu de nerd.
Nettoyer un aquarium?
Je trouve pas que c'est très nerd, mais tu peux nous en parler si ça te fait plaisir.
Non, mais il faut vraiment être un nerd pour entretenir un aquarium, là. Okay, moi, je m'en occupe pas beaucoup, là. Je suis ma copine là-dessus. Mais là, les poissons sont comme toujours un peu entre la vie et la mort présentement parce que l'eau va pas bien, la chimie. Fait que là, il faut faire analyser l'eau. Il y a un produit chimique que tu mets, il faut monter la température, baisser. Puis là, nos poissons, on en a perdu deux, là. C'est comme ils sont morts. Oh. Là, on est comme toujours un peu sur le qui-vive, là. On regarde, OK, il y a des points blancs sur la tête. Là, il faut que tu viennes comme un nerd de la poissonnerie. Puis là, on est toujours rendu à l'animalerie pour demander conseil. Ils rachètent un produit, ils changent ci, ils changent ça. OK, là, il faut les regarder, il faut changer la température. Mais là, il faut faire ci. OK, on va ajouter une branche. Il faut changer les filtres, il faut nettoyer les filtres. Il ne faut pas trop nettoyer les filtres parce qu'il faut garder la bactérie dedans. Il faut faire ci, il faut faire ça. En tout cas, ouais, bref. Ben, et la psychologie poissonnerie, il ne faut pas les stresser trop non plus.
C'est important. Mais c'est vrai aussi qu'on sous-estime, mais les poissons, c'est très, très dur à s'occuper. On a tendance à s'imaginer le poisson rouge dans un tout petit bocal, mais ça, c'est de la maltraitance animale. Juste un petit rappel, les poissons rouges, en fait, ils peuvent vivent extrêmement longtemps, puis ils peuvent grossir vraiment plus que l'image qu'on s'en fait. Ils peuvent devenir quand même assez massifs. Puis c'est des animaux qui sont grégaires, comme les octodons. Donc, c'est des petits animaux que je possède, à mi-chemin entre les écureuils puis les chinchillas. Puis les poissons, ben ils ont besoin d'avoir un ami avec eux. Sinon, ben ils commencent à déprimer puis ils se laissent mourir. Ce qui est la raison pour laquelle, pendant super longtemps, on pensait que les poissons rouges allaient mourir. Finalement, c'est un sujet de nerds.
Oui! Oui! On peut vraiment aller loin dans la psychologie poissonnée.
On se fera un épisode entier à un moment donné juste là-dessus.
Oh non!
Et toi, de ton côté, Mick?
Ben moi, de mon côté, je prépare un gros projet, une web-série qui va s'appeler Dédale et magie, mais je vais peut-être en parler à une autre émission. Mais sinon, je vais, comme anecdote, j'ai suivi un cours pour faire du voice acting, pour faire de la voix pour les jeux vidéo. Donc, c'est vraiment un métier là, très pointu et très méticuleux. C'est somme toute plus compliqué que ce qu'on pense.
Ouais, ben c'est souvent ça. En fait, lorsqu'on a tendance à penser qu'un métier est facile, ben, c'est juste que tu n'es pas au courant de comment ça fonctionne. Je sais que c'est une courbe de progression. J'ai oublié le nom exact, là, mais quand tu considères qu'un métier est très facile, souvent, c'est que tu n'as aucune expérience dedans et que tu ne sais pas de quoi tu parles.
Exactement.
J'aime ça.
Donc, ça va chercher vraiment l'acting, le jeu d'acteur, évidemment. Il faut que tu interprètes un personnage, mais il faut aussi que tu sois bon là, pour rentrer dans les temps, parce que quand la ligne du temps passe puis qu'il faut que tu cadres certains mots à certains endroits, il faut que ça soit pile-poil.
Ouais, il faut faire attention à la synchro-labiale.
Exactement.
Super. Est-ce que tu as d'autres petits conseils à nous donner? Qu'est-ce que ça t'a donné, tes cours?
Qu'est-ce que ça m'a donné? Ben, ça m'a permis de me donner les bases pour me dire, ben, moi, je suis musicien aussi, donc à la maison, j'ai micro, etc. Je peux m'enregistrer. Donc, je peux faire des voix pour les autres ou pour mes propres projets, puisque je fais des jeux vidéo.
Effectivement, c'est quand même assez formidable. Va falloir que je me lance dans des trucs comme ça, moi aussi, éventuellement. C'est intéressant. Surtout quand tu fais quand t'es maître de jeu de Donjon Dragon.
Ben oui.
Ça peut être cool. Moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, ça va être un peu mon anecdote. Critical Role, j'avais jamais écouté, donc Matthew Mercer et compagnie. Je suis très en retard sur la hype, là. Quoique ça a recommencé récemment à cause de Vox Machina, qu'Alex nous avait parlé il y a de cela deux semaines. Mais non, ce qui est fascinant avec Critical Role, ben, vu que c'est tous des doubleurs, vu que c'est tous des voice actors, c'est incroyable à quel point c'est immersif. Là, ils rentrent dans leur personnage, t'es là, t'es comme, ok, waouh, c'est vraiment le personnage qui parle. C'est pas quelque chose qui est nécessaire pour avoir du fun dans une partie de Donjons Dragons que de faire les voix, mais je trouve que ça ajoute tellement une belle immersion. Et de mon côté, est-ce que j'ai besoin de vous surprendre si je vous dis que mon anecdote va toucher de près ou de loin à Elden Ring?
Je suis bouche bée.
T'es encore là-dessus? Ça fait une couple de fois que je viens pas à l'émission, puis t'es encore là-dessus.
Mais c'est comme les amateurs de hockey qui en reviennent pas du but d'Alain Côté. Ah, oui. Ça va revenir à l'utam éternel.
C'est parce que ce jeu-là, il est incroyable, c'est formidable. Mais c'est plus une anecdote de réseaux sociaux, dans le sens où moi, sur mes réseaux sociaux, j'essaie de regarder un peu quelle publication marche, quelle publication marche pas, ne serait-ce parce que dans notre métier, les métiers artistiques, ben, c'est important de bien entretenir ses réseaux sociaux, parce que sinon, ben, tu te fais pas écrire, t'as pas de contrat, t'as pas d'emploi, t'as pas de loyer, ben t'es triste.
Tu peux pas te payer le ring?
C'est ça, ben oui.
Ah?
Ben, si t'as pas d'emploi, tout ça, tu peux pas payer ces jeux vidéo-là, peux pas y jouer. Fait que, tu sais,
c'est une catastrophe. Moi,
pas de boulot, pas de dodo, là. Pas de boulot, pas de coco.
J'ai besoin d'acheter des jeux vidéo. Mais plus sérieusement, Elden Ring, c'est une de mes publications qui a le moins marché. La gang de Decoy Dinners, on a jasé un peu dans les commentaires, mais peut-être deux likes comparé à d'autres affaires. Et paradoxalement, c'est une des publications dont on me parle le plus. Hier, j'ai eu un party de Noël avec ma famille. Mes cousins se sont mis à m'en parler. On s'est mis à jaser de ça. Ça nous a fait un sujet de conversation pour toute la soirée parce que tout le monde joue à ce jeu-là. Y a des gens qui m'écrivent de manière inopinée sur Facebook pour faire « Hey Jay, Elden Ring, t'en penses quoi? C'est hot! » Ça déchaîne les passions, ce jeu-là. Puis si tu regardes sur mon mur Facebook, t'as l'impression que ça a fait un flop total, que tout le monde s'en contrefiche. Fait que je trouve ça quand même assez fascinant de voir que les gens l'ont vu, ont pas interagi, mais ça a quand même été les chercher suffisamment pour qu'ils décident de m'écrire en privé, pour qu'on interagisse ensemble. Fait que j'ai l'impression que ça fait quasiment des interactions qui sont plus vraies que si c'était sur les murs Facebook. C'est assez spécial.
C'est ce que j'avais en tête, tu sais, quand tu disais, quand ça a l'air d'avoir floppé, puis finalement, c'est parce qu'en arrière, ça bouge. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vois pas ce qui se passe, mais que derrière, ça bouge, c'est là que c'est le plus important, là.
Exact.
Pis c'est le fun parce qu'en termes de pandémie, tu sais, c'est pas l'image qui est importante, c'est ce qui se passe réellement derrière l'image.
C'est vrai. C'est effectivement très vrai. Ça, là, pendant la pandémie, les gens arrêtaient de s'habiller, puis on était quand même capable de faire nos emplois, on était quand même capable de donner de la matière.
Tu veux-tu que je remette mon chandail?
Ça serait pas pire, William. À un moment donné, je vais finir par trouver ça étrange. Non, pour nos auditeurs à la maison ou dans leur voiture, tout le monde a ses vêtements. Du moins, c'est ce qu'on veut vous affirmer.
Mouhaha.
Et toi, Mick, de ton côté, oui, tu voulais nous parler de quelque chose qui, oui, te touche?
Oui, qui est un sujet important. Dans les jeux vidéo, quand tu fais du jeu vidéo, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et moi, j'ai passé par une panoplie de choses que j'ai faites et que j'aurais pas dû. Donc, je vous donne des trucs aujourd'hui, à savoir comment contourner ces petites choses-là. J'ai 22 points, donc ça se peut que ça aille assez vite, les amis, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser. Donc, le premier point, faire un jeu tout seul. Évidemment, quand on se lance là-dedans, moi, je me suis lancé là-dedans, puis c'était mon but, puis c'est encore mon but de faire mon jeu tout seul, parce que je suis une personne avec plusieurs talents, puis je suis capable de fragmenter mon travail, mm-hmm, mais je le conseillerais pas à, je dirais, 80% des gens, parce que faire un jeu tout seul, de A à Z, c'est rare les gens qui vont se former à la fois en musique, en programmation, etc. On va toujours avoir un coin où ce qu'on est moins bon. Et moi, j'ai découvert que mon coin où ce que j'étais moins bon, voire médiocre, c'est ce qu'on appelle le level design. Mm-hmm. Donc, le design des niveaux. Tu sais, moi, placer un arbre ici, placer un arbre là, moi, c'est lettre quand je le fais. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Ça fait que probablement que Dans le futur, je vais trouver des gens qui aiment ça, là, mettre des petits arbres ici et là, mettre des villes puis des petits personnages, parce que moi, c'est pas ça.
Fait que c'est pas toi qui aurais travaillé sur Elden Ring, là. Je vais revenir là-dessus tout le temps, je suis désolé.
Ben, peut-être sur la programmation des combats, ou etc., mais pas sur le level design, vraiment pas. Une autre chose aussi qu'il faut penser dès le début, c'est à organiser son code, ses codes, ses scripts, à être hiérarchisé le plus possible, parce que je l'ai vécu d'être un peu broche à foin dans mes organisations. Puis quand t'arrives puis t'as 2000 scripts à gérer, puis qu'il faut que t'en trouves un là-dedans. Oui, il y a une barre de recherche, mais quand même de savoir où ce que sont tes scripts juste pour ton personnage de base, c'est intéressant. Donc, être très organisé dès le départ.
Puis aussi, si t'es pas organisé, ça ralentit ton code, puis ça fait que ton jeu à la sortie est pas très, pas très efficace.
Exactement. Et puis, une mauvaise planification ou trop de planification. Des fois, la plupart des gens ont de la difficulté à s'organiser, à se planifier, etc., à se faire un agenda, même si tu le fais de façon bénévole ou pour ton divertissement. Si tu veux que ton jeu y avance puis que tu sortes, ça te prend un agenda, tu n'as pas le choix. Mais il y a des fois, il y a des gens qui vont trop s'organiser, trop planifier. Ça va être une façon d'éviter de faire le vrai travail. Donc, faut faire attention à ça, à ce qu'on appelle de la fuite vers l'avant, c'est-à-dire de se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas faire la job qu'on ne veut pas faire. Puis qui, elle, ferait tellement avancer le projet. Sinon, la course aux features, aux caractéristiques de jeu. C'est-à-dire, quand on crée un concept de jeu, on se dit, bon, mon jeu, ça va être, mettons, un platformer, l'histoire d'un plombier, platformer, il va de tuyau en tuyau, puis il faut qu'il sauve une princesse. T'sais, grosso modo, là, je viens de parler de Mario Bros. Mais quand on est dans le début, des fois, on se dit « Ah, tel jeu, mettons Stardew Valley, a tellement pogné, je vais mettre un aspect de ferme dans mon jeu. » Là, on voit des Mario Bros avec de la ferme dedans. Donc, il faut faire attention à ne pas rajouter nécessairement des features, des caractéristiques de d'autres jeux dans notre jeu. Il faut garder ça quand même épuré pour que à la fin, dans le fond, c'est d'avoir du plaisir là-dedans. Ensuite, ignorer la phase de prototype. Donc, moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas trop les prototypes, donc je vais tout de suite dans le cœur du sujet. Mais le prototype va te permettre tout de suite de savoir si ton jeu, le gameplay est bon, si la jouabilité, pardon, est bonne. Donc, moi, c'est un peu ce qui a mis une pause à mon projet, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais des beaux graphiques, j'avais des belles choses, etc. Je jouais à mon jeu, puis... Mais ça, j'ai pas de plaisir à jouer à ça. T'sais. Donc, ça m'a fait. Je me suis dit, ben, je mets une pause dans le développement, puis je passe à autre chose. Je repasse sur le concept de base. Donc, faire attention à ça. Aussi, polir avant de créer, vouloir faire parfait dès le départ. Ben, ça revient un peu au prototype, c'est-à-dire que t'es mieux d'avoir un jeu avec des carrés qui avancent, puis que quand tu y joues, t'aimes ça, voir ça. Parce qu'après, quand tu vas le polir, tu vas juste capoter ta vie, tu vas juste embarquer dedans dans l'atmosphère. Sous-estimer le gameplay, donc de mettre du temps dans vraiment est-ce que telle action a une répercussion plaisante pour le joueur, soit dans sa découvrabilité du jeu, ou soit quand on est en combat, ben, que ce soit le fun ou non. Moi, j'ai eu des problèmes parce que à la base, mon jeu était un jeu préhistorique, donc axé sur du combat en mêlée, physique. Mais j'ai introduit là-dedans des sorts, des habiletés spéciales. Puis les habiletés spéciales étaient tellement plus le fun que le combat de base que ça a fait en sorte que, OK, il faut que je repense mon jeu parce que c'est pas un jeu de magie que je veux faire. Là, parce que, juste pour vous donner un exemple cocasse, j'avais programmé un sort où ce que tu lances des petites abeilles qui vont trouver les ennemis puis qui vont les picosser. Fait que juste ça débalançait le jeu parce que c'était hyper puissant. Puis c'était super le fun aussi. Donc je me ferais peut-être un jeu où ce qu'on est un magicien qui lance des abeilles, qui sait. Aussi, l'intelligence artificielle de tes monstres. Dans certains types de jeux, t'as pas besoin d'avoir des monstres avec une intelligence artificielle si poussée que ça. Là, si on pense à un Zelda classique, à la base, là, un ennemi qui avance en sautant avec une épée puis qui donne un coup d'épée de temps en temps, c'est pas très poussé comme intelligence artificielle, mais on, quand on développe un jeu, on se dit « Ah là, il va penser à ça, il va faire ci, etc. » Fait que là, je me suis retrouvé à programmer une intelligence artificielle beaucoup trop complexe. Mm-hmm. Tous mes petites créatures pensaient comme des gros boss, donc ça marche plus. Mm-hmm. Donc, faire attention à ça aussi. Sous-estimer l'intégration de certains points, dont la lumière, les sons, les tuiles, l'animation et la sauvegarde. Tout ça, t'es mieux de le faire dès le début. Parce que après ça, ça risque d'être difficile d'intégrer les codes. Des codes qui, somme toute, pour la lumière, entre autres, et la sauvegarde, peuvent faire crasher ton jeu, peuvent faire en sorte que ton jeu est injouable. Donc, fais ça dès le début, classe tout ça, ton système de sauvegarde, puis après ça, fais ton jeu. Mm-hmm. Ne pas savoir sur quoi mettre l'emphase. Ben, quand tu le fais tout seul, forcément, tu fais tout. Donc, tu peux arriver à un moment où tu te dis... c'est quoi je fais aujourd'hui? Mm-hmm. J'ai le goût de travailler sur mon jeu, mais qu'est-ce que je fais? Donc, il faut tout de suite que tu aies priorisé tes choses puis que tu aies planifié ton développement. Mettre plus de temps dans le user interface, le UI, que dans le gameplay. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est-à-dire pas trop lécher ton jeu dès le départ. Mm-hmm. Des carrés blancs, des fois, ça peut être intéressant des avoir pour tester ton jeu, puis après ça, tu vas vers des vraies images. Ne pas se mettre à la tâche, hein, la fameuse procrastination qui est là dans tous les domaines et qui est peut-être propre à l'humain, qui sait. Oui. Donc, il faut se discipliner puis se mettre à la tâche. Avoir le sentiment d'imposteur, ben dans mon cas, j'ai jamais sorti de jeu vidéo, donc forcément j'ai un petit sentiment d'imposteur qui arrive, mais vu que je fais d'autres projets, ben je me dis j'en ai derrière la cravate, puis mm-hmm. bon, ça va. Mais comment combattre ça? C'est simple. Il s'agit de se rappeler que tout le monde a commencé quelque part. Puis personne est né en sachant marcher, mais pourtant c'est un pas, un petit pas, tomber, un autre petit pas. Donc sentiment d'imposteur, faire attention à ça. Un bon jeu n'est pas nécessairement un jeu qui se vend bien. Donc, il y a des bons jeux qui sont sur le marché indépendant, puis c'est des petites perles, mais ils se vendent pas parce que les gens prennent pas le temps ou ont pas les moyens de faire des grosses campagnes publicitaires.
C'est
là-dessus.
Particulièrement vrai à Québec, ça.
Tout à fait. Et puis, souvent, les jeux qui se vendent très bien, etc., ont des grosses machines marketing en arrière pour les pousser. Puis quand le joueur arrive, il sente les mains, ben il se dit « Ouais, c'est beau graphiquement, les voix, etc. » Mais est-ce qu'il y a vraiment du plaisir? Des fois, on se pose des questions. Est-ce que tu as du plaisir à jouer à Elden Ring?
Moi, tout le temps, beaucoup. C'est incroyable à quel point j'adore ce jeu-là.
Donc, c'est un jeu qui a tout pour lui, si on peut dire, en ce sens mm-hmm. qu'il y a des beaux environnements, des belles mécaniques de combat, et il est plaisant à jouer.
Ben, exact. Je pense qu'un de mes exemples par rapport à ça, ça serait Dark Souls 2, si tu me permets la parenthèse. Oui. Dark Souls 2, normalement, tout ce qui devrait faire un bon Dark Souls, j'ai pas de plaisir à le jouer, je l'ai jamais fini. J'ai essayé pour de vrai, là, mais il est plate. Quand tu frappes, il n'y a pas de poids. En effet, le jeu, s'il est plaisant, ça n'a pas besoin d'avoir des beaux graphiques, ça n'a pas besoin. Le but d'un jeu, c'est d'avoir du fun.
Exactement.
Puis quand on le néglige, ben ça fait Dark Souls 2.
Je ne sais pas s'il me reste combien de temps, mais bref, je vais y aller quand même assez vite. Trop parler de son jeu avant qu'il soit sorti, ça, c'est mon défaut à moi, du sens que vu que je fais mon auto-promotion, ben souvent je parle beaucoup, beaucoup de mes projets. Ça crée un hype, hein, ça crée une envie. Pis...
Au-delà de ça, si tu me permets, oui. J'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo du mentaliste Fabien Licor qui disait que lorsqu'on parlait d'un projet à ses amis, à sa famille, on avait tendance à se faire féliciter par eux, genre, hey, wow, c'est cool, tu fais un beau projet. Puis ça vient donner la récompense, donc la petite sensation de dopamine dans ta tête, ce qui fait qu'après ça, d'un point de vue biologique, tu perds l'envie de faire cette activité-là parce que tu as déjà reçu la récompense. C'est, oui. Donc, effectivement, c'est très important, il faut fermer sa trappe.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais avec le temps aussi, on vient à faire la part des choses. C'est-à-dire que, entre autres, là, quand on fait des projets artistiques, vous l'avez sûrement déjà vécu, c'est que si on en parle, on va avoir toutes sortes de points de vue de mm-hmm. gens. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que nous, on est au cœur du projet, on est le créateur ou la créatrice, Puis c'est nous qui savons. Il faut pas se laisser démolir par des commentaires qui vont dire ah, tu réussiras jamais, etc. Mm-hmm. Faut apprendre ça à ne pas se laisser démolir. Puis en même temps, faut pas trop se laisser féliciter d'avance parce que techniquement, on n'a rien fait encore, tu sais, dans le projet. Donc c'est intéressant le point qu'elle t'amène. Donc assumer ce que les joueurs veulent, une erreur à faire. Tu fais pas un jeu en te disant ah les joueurs vont vouloir telle affaire, vont vouloir telle chose, donc je les rajoute. Tu fais un jeu qui est cohérent à lui-même plutôt. Mm-hmm. Comme ça, ben les joueurs vont se laisser embarquer dans ton univers plutôt que tu vas leur créer tout le chemin pour eux. Puis quand on joue, on veut pas non plus se casser la tête tant que ça nécessairement. Donc voilà. Faire un moteur de jeu au lieu de faire un jeu. Souvent, les gens qui commencent, ils vont se dire, je vais faire un moteur de jeu, un engine, qui pour faire plusieurs jeux dans cette série-là, plutôt que de faire le dit jeu. Mm-hmm. Donc, ça peut être un piège aussi à se dire, je vais révolutionner le monde du jeu vidéo grâce à mon moteur de jeu. Mais dans le fond, bonne chance hein, si tu veux faire ça tout seul en plus. Hein.
Ouais, surtout que dans l'industrie, faire un moteur de jeu vidéo, très souvent, il y a des entreprises que quand ils finissent leur moteur, vu que ça fait 3-4 ans, les moteurs évoluent tellement vite que leur moteur est désuet, ils sont obligés de recommencer du début.
Exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'on voit sur Steam ou les autres plateformes certains jeux qui sont nouveaux, mais dans le fond, ils utilisent des moteurs de 2012, tu sais, alors que c'est des jeux totalement frais et nouveaux. Copier les idées des autres, il y a une différence entre copier et s'inspirer. Moi, je classifie ça comme ça, c'est-à-dire copier, c'est tu fais un copier-coller avec quelques petits ornements, disons. Tandis que s'inspirer, c'est Tu prends l'idée, puis tu crées quelque chose de nouveau. Tu sais, ça te donne un ressort, un levier plutôt, pour créer quelque chose de nouveau avec ton angle à toi de traitement. Donc ça, c'est s'inspirer versus copier. Donc la copie, on fait attention à ça parce que c'est un monde, somme toute, très petit, qui se parle. Puis si tu fais une copie intégrale de Stardew Valley ou n'importe qui d'autre, tu vas te le faire dire, tu vas te faire sabrer, puis tes autres projets, ben tu pourras pas les sortir. Une chose technique, faire des personnages trop grands. C'est-à-dire que souvent, on veut mettre l'emphase sur le personnage principal, puis souvent, graphiquement, on le fait trop grand. On fait des plans de caméra qui montrent juste le personnage, alors que, dans le fond, il faut faire attention à ça, tout simplement pour garder l'ambiance et l'atmosphère. Oublier sa communauté. Ben déjà, il faut bâtir sa communauté. Donc, il faut travailler là-dessus. Si vous n'êtes pas bon dans ce domaine-là, ben peut-être trouver un ami là, qui est capable de vous bâtir une communauté. Importer un lot de code d'un peu partout pour régler tes bugs. Ça, c'est un défaut, somme toute. Quand on ne sait pas coder, on ne sait pas comment résoudre nos problèmes, on va importer d'autres scripts à l'intérieur qui vont faire en sorte que ça va régler le problème, mais dans le fond, c'est juste un placeur sur un bobo. On n'a pas réglé la source du problème. Mm-hmm. Donc, vaut toujours mieux, quitte à réécrire tout son code. Si ça marche pas, ça marche pas. Rajoute-en pas une couche par-dessus. Être trop ambitieux, ben ça, c'est un de mes problèmes majeurs. En ce sens que l'idée est vraiment belle, ça fait que je veux vraiment me rendre à l'idée. Mm-hmm. Mais des fois, il faut faire des compromis, tout simplement. Faire une sortie trop rapide, ben moi, j'ai pas encore sorti de jeu, ça fait que j'ai pas connu ça, mais il faut faire attention à être vraiment prêt quand on sort quelque chose. Et surtout, le dernier point, le point le plus crucial, ne pas finir un jeu. Donc, il faut finir son projet. Mm-hmm. Quitte à ne pas le publier, il faut au moins le finir. Comme ça, on va dire, on a acquis de l'expérience, on va en faire un meilleur par la suite. Mmh.
Puis aussi, c'est que ça t'enlève la charge mentale de te dire, ce projet-là n'est pas fini, ce projet-là n'est pas fini, ce projet-là n'est
oui,
pas fini.
Vrai.
Ça peut rapidement devenir lourd. Ta chronique me faisait penser, puis oublions les polémiques qui tournent autour de ce YouTuber-là, mais Yandere Dev, le développeur de Yandere Simulator, en 2012, ce jeu-là a explosé. Il est encore... En tout cas, c'était une alpha, donc les gros YouTubers, PewDiePie, Jacksepticeye, Squeezie, etc., ils ont tous joué. Ça lui a donné une portée qui était massive, sauf que ça lui a donné une portée qui était peut-être un peu trop grande, parce qu'après ça, comment dire, c'est pas un développeur de jeu dans le sens où ses formations sont un peu all over the place. Ben, un peu, il est allé les piocher un peu partout, puis surtout, son code mode à lui est catastrophique. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, ce qu'ils analysent. Parce que quand tu joues à Yandere Simulator, c'est un jeu qui est fait sur Unity, de Unity Engine, qui, c'est un jeu de 2012, puis des ordinateurs qui arrivent à rouler Elden Ring n'arrivent pas à rouler Yandere Simulator à plus que 15 FPS. C'est pas normal. Fait que ça démontre que le problème vient du code du développeur. Puis c'est quelqu'un qui est très, très, très fermé à la critique. Puis très souvent, en fait, son grand problème, c'est que c'est un communicateur avant d'être un développeur. Il va faire des vidéos YouTube où il va se justifier, il va expliquer, il va dire qu'il a subi du harcèlement, il va dire que si, que ça. Pour vous qui veulent se lancer dans des projets artistiques, si jamais à un moment ou un autre il vous arrive une polémique, il se passe quelque chose qui est un peu poche, n'en parlez pas. La mémoire collective, elle est extrêmement faible. Les gens, ils se rappellent des événements pendant une semaine et demie, puis ensuite on passe à autre chose.
Exact.
La phrase « ferme ta trappe », elle ne peut pas être plus vraie que là. Et lui, parce qu'il adressait ces situations-là, ben, c'est devenu une chaîne de drama avant d'être devenu une chaîne où il développe un jeu vidéo. Puis ben, son jeu, ça va maintenant faire 10 ans qu'il n'est pas sorti. Puis à l'époque, il disait ben, c'est correct que mon jeu soit pas sorti. Regardez, Cuphead, ça a pris 5 ans. Ouais, mais Cuphead, ça a été dessiné entièrement à la main en cellule shading.
Oui, c'est ça.
Yandere Simulator, c'est des assets que tu as pris sur le Unity Store. Donc, faut faire attention à ce genre de situation-là où ce que tu peux rapidement, je vais utiliser le terme anglais, faire un bad buzz juste parce que tu n'as pas pris la peine de surveiller ces points-là que tu as mentionnés, Mick. Ouais. Puis ben, après ça, tu te ramasses avec des gens qui vont décoder tout ce que t'as fait pas correct, puis il faut que t'acceptes que ben, des fois c'est pertinent, puis des fois ben, c'est pas pertinent. Mais tu sais, quand ton jeu tourne à 15 FPS sur un jeu qui est capable de rouler Elden Ring, c'est ton code qui a un problème. Sauf que ben, lui en tant que développeur continue de dire oui, mais sur mon ordinateur ça marche. Oui, mais c'est parce que t'as le code source. C'est pour ça que ça fonctionne.
Oui.
Fait que je trouve ça intéressant. C'est tous des éléments que je me dis que si ça, il aurait fait attention dès le départ, avant d'avoir son espèce d'explosion médiatique, ben, probablement qu'il n'y aurait pas tous les problèmes qu'il vit en ce moment. Parce que ça doit être lourd quand même de se dire mon jeu, ça fait 10 ans, il n'est toujours pas sorti. Puis ce que je trouve un peu capoté avec ce YouTuber-là, c'est qu'il est tellement bon communicateur qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'il va sortir son jeu puis qu'il finance. Il a un crowdfunding. Je pense qu'il reçoit quelque chose comme 3 000 $ par mois pour un jeu qui n'est pas sorti depuis 10 ans puis qui va avoir des graphiques de 2008-2009.
Oh mon Dieu.
C'est une masterclass en communication, cette personne-là. Je ne sais pas comment il fait.
Rendu là, il pourrait juste peut-être prendre le conseil de Mick là, puis dire pas trop ambitieux puis finir un jeu. Moi, dans ma tête, quand tu as fini ta chronique, je me dis au pire, tu fais ton jeu, chapitre 1.
Ouais,
le sors, tu regardes les commentaires, tu pars ton chapitre 2. Tu sais, tu fais comme, je sais c'est quoi mon histoire globale, mais je vais sortir de temps en temps comme ça, puis plus ça va aller, plus je vais m'améliorer, plus les gens vont vouloir jouer, puis si les gens, hey, j'ai joué au chapitre 3, commence au début, les graphiques s'améliorent, ça vient de mieux en mieux, puis c'est le fun, la progression. Tu sais, juste de même, c'est le fun, parce que t'as une progression, toi comme développeur, et eux comme participant.
C'est ce que Toby Fox a fait avec Deltarune, puis pourtant, ça reste un développeur de jeu qui est chevronné. Là, Undertale, c'était pas des peanuts. Mais bref, on en parlera un peu plus après la pause, car il ne nous reste que 20 secondes. Et de mon côté, je vais aussi... on va être sous le signe de la pédagogie. Écoutez, messieurs, je vais aussi donner des leçons sur comment faire pour être un bon maître de jeu, à savoir que c'est toujours des opinions qui sont subjectives. Il va falloir adapter à sa sauce. Et donc, on se revoit après la pause.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Trois filles en communication, ça jase. Venez écouter notre émission sous la forme de podcast les vendredis à 14h. Même si ta matinée a mal débuté, on te promet un sourire en cette fin de journée. Au menu, critique culturelle, vie universitaire, santé mentale et une bonne séance de jasette. Les vendredis à 14h, dès qu'on presse avant le week-end et serait un petit cocktail, après tout, it's 5 o'clock somewhere.
Curieux de revenir à l'époque où il y avait de la flûte partout?
Venez nous rejoindre à Recyc Prog pour une super sélection de chansons rock progressives à découvrir et redécouvrir.
On se retrouve tous les jeudis à 14h à Chiz 94.3.
La clé du succès est offerte à ceux qui savent apprendre des leçons tirées par leur père. Une belle façon de le faire, c'est d'écouter Fables d'entrepreneurs que j'ai le plaisir d'animer. Je me présente, Émile Aymon, économiste chez Québec International, et récemment, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec des entrepreneurs d'exception œuvrant dans la région de Québec. Et je vous présente le fruit de ces entretiens. Ne manquez pas ça, 9h, les mardis, sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, vous avez bien rejoint Francis. Si vous entendez ce message de boîte vocale, c'est sûrement parce que je suis quelque part en pleine nature. Voyez-vous, je viens de commencer un emploi à la CEPAC. Ça me ressemble tellement comme emploi d'été. Je passe plein de temps au grand air, je rencontre du monde incroyable et surtout, je permets aux gens d'être en contact avec leur nature. Vous aussi, vous pouvez vous joindre à l'équipe. Il y a des emplois disponibles aux quatre coins du Québec. Pour appliquer, c'est au cepac.com/carrière. Ah oui, donc c'est ça. Laissez un message après le bip.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Donc, on vient d'entendre la musique du Roi du Chaos et de Jeville de Deltarune qui, les chapitres 3, 4 et 5 sont censés sortir dans 2 ans, si je ne m'abuse. En tout cas, prochainement, Toby Fox a été volontairement très vague sur sa date de sortie. Lui, d'ailleurs, c'est une masterclass en communication où ce qu'il dit, le jeu va sortir lorsqu'il va sortir. La pire erreur qu'on peut faire, c'est de donner une date parce qu'après ça, si on a besoin de repousser, ben, on en entend parler pendant longtemps. Skyrim, notamment, Elden Ring. Donc, c'est quelque chose auquel c'est pas faux. Mais plus sérieusement, donc moi aujourd'hui je vais vous parler un peu de mes trucs et astuces en tant que maître de jeu. Gardez en tête qu'évidemment c'est toujours quelque chose qui est un peu, qui a une part de subjectivité. Il y a des éléments qui vont venir. Moi par exemple, j'utilise beaucoup les codes de scénarisation du cinéma, mais c'est aussi parce que ben, je suis un cinéaste de formation, c'est la chose que je maîtrise le mieux. faut garder en tête que c'est pas tout le monde qui fait des parties pour les mêmes raisons. Déjà, la première chose, il y a des gens qui font des parties, c'est simplement leur prétexte pour se voir puis chiller ensemble. Fait qu'ils vont peut-être jouer 30 minutes, le reste du temps, ils vont manger des chips, ils vont se parler de leur vie, ils vont jaser. Puis c'est correct aussi. C'est ça qui est le fun avec l'imaginaire, c'est que ça peut servir à littéralement tout. Il y a des gens aussi qui vont être super dedans, que tu peux pas décrocher, puis c'est ça qui va leur donner leur fun. Moi, je suis un petit peu entre les deux à ce niveau-là, sauf qu'en tant que maître de jeu, vu que j'en ai fait mon métier, c'est important. Donc, la toute première chose que vous avez besoin de savoir, c'est important d'être adaptable. Vos joueurs ne vont pas tous aimer les mêmes choses, ne vont pas tous rechercher la même expérience au niveau des jeux de rôle. Moi, j'ai certaines de mes parties où ce que on est dans une immersion totale. Je mets la musique, je mets l'ambiance, je mets les costumes. Donc, des fois, il y a des costumes. Et lorsqu'on se lance dans la partie, on est à fond dedans, puis on en décroche seulement au moment où ce que je termine. Il y a d'autres parties où ce que avec les jeunes, c'est un peu leur manière de se détendre à la fin de la semaine après une grosse semaine d'école. Ils vont parler un peu de qu'est-ce qu'ils ont vécu à l'école, de leurs projets, s'ils ont fait du théâtre ou non. C'est correct aussi. C'est que ça les met dans un mood où ils sont à l'aise puis ils se sentent confiants. Mais c'est le fun de se dire qu'en tant que maître de jeu, t'as réussi à mettre tes jeunes suffisamment confiants ou tes joueurs en général pour qu'ils se mettent à te parler un peu plus d'eux. Puis aussi, c'est que ça, c'est de l'information qui est vitale. Parce que si vous connaissez vos joueurs, et donc ça va être mon deuxième élément, si vous connaissez vos joueurs, vous savez quel type de partie vous allez pouvoir leur faire. Si vous ne savez pas cerner vos joueurs et que, je sais pas moi, vous vous basez sur le fait qu'une de vos parties il y a deux mois fonctionnait parce qu'il y avait que du combat, peut-être que vos joueurs, ils sont à fond sur le roleplay puis qu'ils n'en ont rien à faire du combat. Si dans votre groupe, il y a zéro barbare, zéro guerrier, vous avez des druides, vous avez des mages, peut-être que c'est un indice que votre groupe ne fera pas beaucoup de combats et qu'ils ne sont pas portés à vouloir ça. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Porter une attention particulière à ce qui va briser l'immersion. On a tendance à se dire « qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon histoire immersive? » Non, commencez par penser à qu'est-ce qui va briser l'immersion parce que une fois que le... En fait, c'est un espèce de contrat social où, par exemple, lorsqu'on va aller voir un film, on a la suspension d'incrédulité, on l'enlève, on se dit « bon, le film... » Là, je suis là pour que tu me mentes. Au final, c'est ça, c'est de la fiction. Oui. Tu sais, je veux dire, les Avengers, tout ça, les super-héros, ça n'existe pas. Quoi? Mais pour deux heures... Non, je suis désolé, William, les Avengers existent.
Pas failli mourir, là. J'explique pas le snap, là. Il y a 3-4 personnes qui sont disparues de ma vie, je comprends pas comment ça...
Solide. Mais... Plus sérieusement, donc, c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention parce qu'une fois que l'immersion est brisée, elle est brisée. Je pense qu'on a tous vécu la sensation, parce qu'on regarde un film, il se passe de quoi, on fait « oh, ça m'a sorti du film oui. ». Une fois que t'es sorti, tu réembarques plus, c'est fini. Là, à moins qu'il y ait vraiment une scène qui est complètement incroyable. Fait que ce qui est le plus important, c'est de ne pas briser l'immersion et porter aussi attention à qu'est-ce que vos joueurs, eux, surveillent le plus. Si vos joueurs surveillent la cohérence de votre univers, portez une attention particulière à ça. Parce que si vous vous trompez là-dessus, il y a plus de sens que vous les sortiez que si, par exemple, vous vous êtes trompé de nom au niveau de votre personnage. C'est correct. Mm. Ça arrive. Quand on fait des erreurs, on reste pas stické dessus. On passe à autre chose. Puis ensuite, une fois que ça s'est fait, regardez comment on fait pour rendre la partie plus immersive. Les joueurs, ils ont vraiment trippé sur un personnage X, mettons, parce qu'il y avait une voix drôle, la manière dont il parlait, c'était intéressant. Ramenez-le. L'objectif, c'est d'avoir du fun. S'ils ont trippé sur ce personnage-là sans non plus en abuser, pensez à le ramener une fois de temps en temps, ça va leur faire plaisir. Moi, un de mes joueurs à la partie que je fais à la Maison des Jeunes, c'est Jean-Baptiste. Il a vraiment trippé sur un personnage qui est un paladin, qui parle fort avec beaucoup d'énergie. C'est devenu un des personnages qui les suivait parce que au final, à chaque fois que ce personnage-là était impliqué, il voulait absolument participer. Puis il disait, moi aussi, je veux faire ça. Fait que c'est une manière de le garder impliqué. Si je voyais que je perdais son attention, subitement, ce personnage-là, il recommençait à devenir actif. C'est important de garder ça. Puis surtout, utilisez ce que vous avez sous la main. C'est un jeu d'imaginaire. Si, par exemple, vous avez des gradateurs à l'endroit où vous faites du jeu de rôle, quand la nuit tombe, diminuez la lumière. Si vous entrez dans une grotte, diminuez la lumière. Lorsque le jour se lève, remontez le gradateur.
C'est du chloroforme, puis il se fait kidnapper. T'es kidnappé, t'es chloroforme. Immersion totale.
Totale immersion.
Tuyau, monsieur.
Oui, c'est ça, immersion. Continuez à jouer au téléphone.
Et découvre l'entrée d'un culte, il y a à disposition des chandelles. Si vous avez des chandelles, dans mon cas, à moi, ça marche pas. Je n'ai pas d'odorat, pour ceux qui l'ignorent. Mais si vous avez des chandelles qui sont parfumées, ça peut être une belle manière d'aller chercher l'immersion. Plus vous allez aller chercher de sens, plus l'immersion va être forte. Puis ça a été démontré maintes et maintes fois. Il y a une raison pour laquelle les salles de cinéma, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait une dizaine d'années, je pense, ont essayé très, très fort d'apporter une dimension d'odorat au niveau des films. C'est parce que c'est l'une des choses qui va le plus aller chercher ton imaginaire, l'odeur. J'ignore pourquoi, mais il paraît que c'est vrai. Donc, et c'est encore plus fort si l'odeur qu'ils sentent à la chandelle, vous la décrivez à un moment donné, et là, vous venez de renforcer x10 la sensation. Variez vos descriptions, et ça, je ne peux pas assez mentionner ça. C'est une erreur que beaucoup de débutants font. Moi-même, je l'ai fait. Mais vous n'êtes pas un dictionnaire des synonymes. Vous êtes un maître du jeu. Votre but, c'est pas de sortir des grands mots. Votre but, c'est de sortir les mots qui sont justes. Et ça, c'est la même chose pour si, par exemple, vous écrivez en littérature. Ben, parfois, le mot qui est juste, c'est pas de son tuyau rect... en tout cas, j'ai pas les mots en ce moment, mais des fois, le mot juste, c'est de dire « il est allé chier ». Des fois, c'est ça qui est juste parce que ça fit avec le contexte.
Il se leva pour aller déféquer et vider ses boyaux internes. Non, il est allé chier.
Merci, oui, William. Mais c'est ça, parfois, c'est ça le mot qui est juste parce que peut-être que votre personnage, ce personnage qui est très grossier dans sa manière d'agir, si vous donnez une description qui est raffinée sur un personnage qui est grossier, ben vous n'avez pas trouvé les mots justes. Vous avez, entre parenthèses, échoué en tant que scénariste. Puis moi, par exemple, en tant que maître de jeu, je vais varier avec les sens. Par exemple, je vais tout le temps mentionner la vision, l'ouïe, l'odorat et le ressenti du personnage. Comme ça, ça m'évite d'avoir besoin de tomber par accident sur des synonymes d'un mot que j'ai fait. Par exemple, ainsi, si vous dites « Vous êtes dans une caverne vide. Tout autour de vous, il n'y a rien. Personne n'a mis les pieds dans cette pièce récemment. » Ben, on s'entend que j'ai dit 3 fois que la pièce était vide.
Oui.
C'était des mots différents, mais au final, j'ai rien apporté de
pertinent. Je m'en suis même pas rendu compte. j'ai tout gobé.
C'est de la langue de bois, ça, William.
Petit, mon Dieu.
Cette phrase-là, elle va devenir « Alors que vous entrez dans la caverne, vous voyez une grande pièce vide. Les parois rocheuses commencent cependant à s'effriter. Vous n'entendez rien, hormis de temps en autre le petit clapotis d'une goutte d'eau qui tombe d'une unique stalactite au plafond. Une odeur nauséabonde monte à vos narines, sans doute de la moisissure. » Ben, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant comme description parce que, oui, j'ai réaffirmé que la pièce était vide puis avait été abandonnée, sauf que ça l'a donné des éléments supplémentaires. Pourquoi est-ce que la pièce est vide? Ben, parce qu'il y a de la moisissure, parce que vous voyez qu'il y a une stalactite qui a commencé à se former, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de vie. Donc, c'est important d'aller chercher les mots qui sont justes, pas les mots qui sonnent bien.
Puis la phrase que tu as dit soulève énormément de questions. Moi, je me remets dans mon côté joueur. Je disais, une unique stalactite, pourquoi unique? Sans doute de la moisissure, c'est peut-être pas de la moisissure. Tu sais, il y a comme plein d'affaires de je me prépare, il y a des doutes ici, il y a une surprise qui s'en vient, c'est Bozo le clown. Ah non, c'est pas ça.
Mais exact, mais c'est aussi ne parlez jamais de manière définitive parce que vos je vais rajouter ça, tiens, parce que les personnages de vos joueurs ne savent pas de manière définitive. Si le joueur dit c'est de la mousse, ben tu lui réponds ça ressemble à de la mousse pour tout ce que tu peux en dire parce que ben peut-être que c'est juste de la mousse, mais tu vas activer ses neurones, il va commencer à se poser des questions, puis ben ça c'est le fun, c'est
cultiver
le fun de
le mystère.
Exact, c'est ça, il y a un mystère, il y a quelque chose. Est-ce que c'est vraiment de la mousse? Est-ce que c'est pas de la mousse? Si c'est de la mousse, pourquoi est-ce qu'elle est là? Fait que c'est d'amener le joueur à se poser des questions, mais aussi les bonnes questions.
Virer paranoïaque, c'est bon ça. Non, c'est juste une poignée de porte. Est-ce que je fais détection de piège sur la poignée de porte? Non, c'est juste une poignée de porte. Détection de magie. Non, c'est juste une poignée de porte. C'est étrange. C'est vieille.
Ça m'est arrivé pour de vrai. Il y a une de mes joueurs qui est rendu complètement paranoïaque parce qu'à un moment donné, il a retiré l'anneau d'une sorcière, puis en tout cas, ça a déclenché un cataclysme incroyable. Depuis, le simple fait d'ouvrir une porte, elle va vouloir faire 18 chaînes.
C'est parfait.
Mais ça, il faut faire attention aussi. Et un autre élément, puis ça, je le tiens de Georges Gérard Martin en personne, donc une vidéo que j'ai écoutée, c'est pas lui qui me l'a dit, petit Jérémy, lorsque tu seras maître de jeu. Non. Ne punissez pas vos joueurs d'avoir écouté. Si vous avez écrit votre histoire en ayant en tête que ce personnage-là, finalement, c'est lui le vrai vilain, puis que c'est censé être un twist, puis que vous voulez pas que les gens s'en rendent compte, mais qu'à un moment donné, je sais pas moi, pour une raison X ou Y, vos joueurs, ils s'en aperçoivent. Il y a des gens dont le réflexe, c'est de se dire « Ah, mais là, c'est plus original, ils s'en sont rendus compte, puis ils vont changer la fin. » Ben, non. Si vous avez écrit votre histoire en ayant en tête que, ben, par exemple, je sais pas moi, le servant le fait, ben, vous avez imaginé l'entièreté de l'histoire en ayant en tête ça. Si vous décidez que finalement c'est plus le servant qui le fait, mais c'est je sais pas moi le cuisinier, ben ça fera plus de sens au niveau de l'histoire. Puis surtout, vous venez de punir vos joueurs d'avoir écouté, parce qu'au final, si votre joueur à la fin il fait ah je le savais, c'est lui, j'étais au courant, ben c'est le fun ça de se dire j'ai compris l'histoire, j'ai bien écouté, puis ben ça m'a récompensé parce que j'ai mis un effort supplémentaire. Ben maintenant je sais ce qui se passe. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été largement critiqué avec la fête Game of Thrones. Où ce que on trouve que c'est pas Jon Snow qui devrait battre le roi de la nuit parce que c'est trop évident. Mais c'est pas juste évident, c'est ce qui fait sens. Pourquoi est-ce qu'on se fait punir d'avoir écouté l'histoire puis de s'être rendu compte que le roi de la nuit, c'était l'antagoniste de Jon Snow? Pourquoi est-ce qu'on se fait punir d'avoir porté attention à l'histoire? Ça fait aucun sens.
Je pense une mal interprétation. Tu sais, des fois, on se dit, OK, j'ai envie d'avoir une twist, que les gens soient surpris. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important que chaque personnage qui évolue, tu sais, mettons, quand tu dis dans l'écoute du personnage, c'est qu'il y a la fin qu'il mérite.
Exact.
La fin pour laquelle il a été créé, comme tout le monde fait. J'ai hâte à ce moment-là parce que, ultimement, c'est vers ça qu'il s'en va. Je veux dire, tout pointe vers là, tout a une destinée. Mais là, R. Martin, son but, c'est pas juste de je vous fais chier parce que je tue des personnages. Il y a une raison pourquoi ces personnages meurent, ben oui. Même si des fois ça arrive comme de n'importe où. Ça arrive pas de n'importe où. Il y avait un plan, exact. Il y avait une idée. C'est pas juste comme on va faire chier, on fait une twist, on surprend. Non, c'est qu'à la limite, lui, dans sa tête, ces personnages-là le méritait ou l'autre faisait quelque chose qu'il doit mériter plus tard. C'est ça l'espèce de filon.
Ben, notamment le mariage pourpre. Ça, les gens, tout le monde s'en rappelle pour la shock value, donc la valeur choc que ça l'avait apporté. Mais il ne faut pas oublier que ça, si tu as bien écouté les saisons précédentes, on a tendance en tant qu'auditeur, en tant que lecteur, en tant que spectateur de se dire c'est Rob, c'est le héros, donc il va réussir. Mais si tu regardes attentivement, il a fait que des niaiseries précédemment. Donc, par exemple, il y avait un de ses bannerets. C'est un des bannerets les plus importants. Il lui chope la tête parce qu'il a tué un des Lannister. Parce que oui, c'était la chose à faire. Il a tué un prisonnier de guerre. C'est pas quelque chose que tu vas accepter. Mais il fallait que Grob garde en tête la dimension politique de cette histoire-là. Si tu tranches la tête d'un de tes plus puissants bannerets, ben, il va sacrer son camp. Fait qu'il a perdu quasiment la moitié de son armée après cette décision-là. Puis, ben, il avait refusé un des mariages qui lui permettait un accès politique parce qu'il était tombé en amour. Oui, ça fait sens dans l'histoire. Sauf que, ben, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Tu viens de perdre la moitié de ton armée. La personne qui était ton allié, tu as trahi sa confiance. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va trahir ta confiance en retour. Mmh. Fait que lorsqu'ils font finalement la deuxième fiançaille, pour, en parenthèse, s'excuser, ben, c'est quoi la chose qui fait sens? Robb Stark, c'est pas des alliés qui sont autour de lui, c'est que des ennemis. Parce que ben, il a tranché la tête d'un de ses bannerets puissants qui était très, très, très apprécié au sein de son armée. C'est qui veut suivre un leader qui fait ça? Fait que Rob a eu la fin qu'il méritait.
C'est pas un conte de fées, là, ce qui vient, c'est Game of Thrones. you win or you die, c'est ça.
You win or you die when you won the Game of Thrones.
C'est ça.
Donc, c'est ça, c'est aller chercher ce qui fait sens pour vos personnages. Et si vos joueurs se sont aperçus de ce que vous vouliez faire, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'ils écoutent. Ça veut dire qu'ils ont un réel intérêt pour votre histoire. Et donc, c'est, disons, mes éléments principaux lorsqu'on fait une partie de jeu de rôle. Il faut toujours savoir adapter en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, si vos joueurs ils trippent sur les énigmes, ben, mettez des énigmes. Si vos joueurs trippent sur les combats, mettez des combats. Il faut savoir adapter. Il n'y a pas une recette parfaite où ce que je vais vous dire, ah ben là, vous devez mettre un combat à tel moment, vous devez mettre du roleplay à tel moment. C'est toujours une question de savoir s'adapter. Et la dernière information que je vais vous donner, c'est n'écrivez pas trop vos parties. Tu parlais de ça notamment, Mick. Oui. Ce qui est le fun avec Donjons Dragons, c'est que ça laisse place à l'improvisation. Si votre histoire est entièrement écrite, vous devenez rigide. Lorsque les joueurs vont faire des choses qui vous surprennent, ben, parce que c'était pas dans les 8 trucs que vous avez planifiés, ben, vous savez plus comment réagir, vous êtes pris un peu de tour. Vous devez vous attendre à l'inattendu, donc écrivez les grandes lignes. Ce personnage-là, il fait ça, il aime ça. Il va vivre dans cet environ-là, mais tu sais pas exactement où il est. Comme ça, si les personnages, ben, ils vont dans une maison qui est spécifique, ben après ça, tu peux inventer sur le tas. Donc, ah, ben ici, finalement, c'est un villageois qui vit avec sa grand-mère. C'est correct, on les reverra pas, ces personnages-là. On peut inventer sur le tas. Prenez quand même des notes d'un coup qui décide de triper sur la grand-mère puis qui veulent retourner la voir.
Ça arrive.
Parce que ça arrive, effectivement. Mais c'est mes conseils pour faire une partie intéressante de Donjons et Dragons et même de jeux de rôle en général, que ce soit de l'appel de Cthulhu ou un système inventé. Il y a même des systèmes de Game of Thrones. J'espère que ça vous aura servi. Et n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux si jamais vous avez trouvé ça pertinent et intéressant. De ton côté, William.
On était vraiment sur l'histoire, tout ça. Et moi, j'arrive avec mon sujet, les films danse lascive. Je sais pas, moi, je me dirais qu'il y a des Ankies, oui, des nerds. Ce qui me donne, c'est de devenir nerd, mais sur quelque chose que les gens s'attendraient pas à être nerd.
Ouais.
Comme, OK, soyons un nerd sur les films de danse lascive.
Ouais, ben, pour de vrai, c'est le fun parce que ça fait qu'on apprend sur des choses qu'on peut-être on va triper dessus, mais qu'on s'attendait pas. Tu nous offres pas ce que l'on a besoin, pas ce que l'on mérite. J'ai raté ma phrase complètement.
Mais
pas ce que l'on mérite, mais ce dont on a besoin.
Voilà. Ouais. I'm not the hero that you need. I'm the one that you deserve.
Exact. J'essayais de citer Batman.
Ben c'est parfait, je le voyais. C'est ça, dans le fond, j'ai dernièrement... moi, dans les derniers deux ans, avec une copine, je suis ouvert au milieu de ces films là, de... qui est beaucoup plus comme public cible, les femmes. mais ça stimule quand même ma curiosité de créateur. Puis je me dis... Quand j'ai fait de la course Estrie en 2009, on a rencontré du monde, puis autour de ça, je me rappelle avoir dit à une des réalisatrices, elle me disait « Bah, j'ai écrit un film, mais il est vraiment quétaine. » Je dis « Pour vrai, quétaine ou pas, il y a du monde qui aime ça, le quétaine. Oui. » c'est le fun du quétaine, parce que c'est réconfortant, tu sais. C'est important d'avoir différents types de films. Puis là, dans le fond, il y a quelques mois, il y a un an, on a vu le Danse-Lassive 1. Je l'ai regardé, il y a des moments intéressants. Puis là, dernièrement, ça passe à la télévision. On l'a regardé, le Danse-Lassive 2, Les Nuits de la Havane. Mais là, je rentre gars de communication, cinéaste, je rentre dans le tas. J'aime ça comparer et savoir pourquoi ça s'appelle Danse-Lassive 2. Puis dans le fond, le titre, déjà, est un mauvais indicateur. Oh. Parce que quand tu regardes Danse-Lassive 2, là, tu fais, OK, ils sont dans la Havane, tout ça. Oh, le style vestimentaire, il me semble qu'il a l'air plus rétro que dans le 1. Puis là, tu dis, regardez les informations dans les synopsis. Danse-Lassive 2 arrive avant, en 1958, et le Danse-Lassive 1 se passe en 1963. Oh. Fait que là, dans le fond, t'es comme premier à faire, là, Danse-Lassive 2. Et là, il y a des histoires en parallèle. Quand tu regardes ça... Le moment donné, t'as Patrick Swayze, le personnage, l'acteur, est dans le 2 aussi, dans Danse-Lassive 2. Puis là, tu te dis, OK, c'est-tu un lien avec le personnage qu'on voit dans le 1, qui est le personnage principal? Mais il y a juste comme quelques apparitions très parsemées dans le 2. Mais là, tu te dis, OK, c'est-tu le même acteur? C'est-tu le même personnage? Mais là, tu regardes, non!
Ah, ouais,
non, même pas! Puis là, je rentre dans le... Oh. En dessous. Et là, je parle juste du titre encore, là. Nerd!
Attends, je vais le lancer.
Patrick Swayze, dans le fond, Danse-Lassive 2, il a jamais voulu de Danse-Lassive 2. Jamais. Il s'est jamais bien entendu avec l'actrice principale du 1. Oh. Les frustrations qui ont été créées parce que lui, c'est un danseur professionnel. C'est un professionnel du jeu. Un réalisateur lui demande quelque chose, il le change. Il veut comme « Refais-moi la même affaire parce qu'il faut corriger telle chose. » Il va te refaire la scène parfaitement. L'autre actrice, plus jeune, autre mentalité, je le fais comme le fil. Je te fais 10 prises, j'en fais 10 différentes. Lui, il va te faire 10 fois la même affaire. Puis c'est un danseur professionnel, pas elle. Donc, il y avait des frustrations aussi qui commençaient. Fait que tu sais, on est dans un montage rapide, il apprend à danser, puis il a l'air frustré. Là. Ah, c'est de la vraie irritation. Fait qu'il n'a jamais voulu de Danse-Lassive 2. Fait que là, celui-là, qui n'est pas un Danse-Lassive 2, c'est juste comme un Danse-Lassive Les Nuits de la Havane. Si tu avais juste comme dit ça, déjà les gens vont pas voir ça en disant c'est un 2, une suite ou la même histoire ou une suite à l'histoire. C'est juste, c'est une réimagination de l'histoire.
On change les attentes.
On change les attentes. T'as vu la bande-annonce de Inglourious Basterd? Tu vas voir le film, tu fais, mais moi je m'attendais à voir beaucoup plus de nazis se faire tuer. Non, mais beaucoup plus de parlage. Oui! Fait que tu sais, des informations, je pense qu'elle est importante pour l'attente, l'appréhension que les gens ont par rapport au projet. Puis dans le fond, c'est ça, le film qui se passe en 1958, ben ça se passe aussi à Cuba, au lieu que se passer en nation américaine. Les reprises de code, de la différence de classe sociale, la jeune fille un peu ingénue tombe à un intérêt vers l'espèce de serviteur un peu soivé, chaud, qui me démontre comme « Ah, tiens, elle est intéressée par sa danse lascive qu'elle vous spot dans la rue. » Tu sais, c'était un serveur au départ. Fait que t'as la différence de classe sociale qui est reprise. Mais c'est pas mal ça, le côté un peu plus intéressant. OK, ouais, ça va vite. L'autre élément... qui ressort quand je regarde comme pourquoi ça s'appelle Danse-Lassive, pourquoi ça aurait pas été un autre titre? Ben là, tu sais, c'est une reprise d'une réimagination de l'histoire. Mais dans le premier, le côté sociétal, le problème sociétal qui est ressorti en marge, c'est il y a une fille qui a fait l'amour qui doit se faire avorter. Il y a comme ça un peu en background qui est comme le problème en arrière. Fait que là, tu te dis, c'est quoi le problème en arrière dans Danse-Lassive 2? Qu'est-ce qui est ressoulevé? Ben là-dedans, c'est la révolution cubaine. Mais elle est pas assez présente. On n'est pas assez touché par ça. Elle est, tu sais, il semble être touché un peu. Mais quand, à la fin, leur représentation finale est interrompue par la révolution, elle arrive comme... Ah, c'est arrivé. Ah, pas de conséquences. Je sais pas si vous connaissez Pitch Meeting là, sur YouTube, là, mais il y a une... Mais on s'est dit... Ah, c'est « barely an inconvenience ».
Ouais.
C'est comme ça arrive vraiment facilement. Fait que c'est pas vraiment un problème sociétal qui est soulevé et nous touche ou touche les personnages. L'incarnation des personnages est vraiment moins intéressante dans le Danse lascive, mm-hmm. Les Nuits de la Havane. Je retire volontairement le 2. puis la crédibilité au niveau de la danse... Patrick Swayze est un danseur de formation. Mm-hmm. Dans ce film-là, à aucun moment on sent la majestuosité de la danse, mm-hmm. réellement. Comme, ah oh oui, je vais te montrer la danse lascive. Oui, mais la fille a dit, j'ai une base de danse. Mais elle montre jamais réellement. Mm-hmm. Fait que l'espèce de wow qu'on a dans le Danse lascive 1, on l'a pas dans Les Nuits de la Havane, mm-hmm. malheureusement.
Mais en même temps, à comprendre comment t'en parles, c'est aussi une question de... C'était pas un projet de passion, ça. C'était... Je sais pas si c'est les producteurs qui l'ont poussé, si c'était autre chose, mais c'est certain que quand t'es plus dedans, c'est difficile de faire quelque chose qui a de la majestuosité, parce que, ben, t'en as pas, toi.
Non. Ben, scénaristiquement, c'est resté à la surface. Mm-hmm. Le montage est trop rapide. On passe pas assez de moments avec les acteurs réellement. Mm-hmm. C'est juste des mises en situation. On passe pas un moment avec eux. Puis ce que j'ai remarqué, c'est quand il y avait des moments de danse, au lieu de « Hey, fais-moi un plan large, puis montre-moi-les danser genre pendant 30-40 secondes, mm-hmm. qu'est-ce qu'ils sont capables de faire comme move et d'enchaîner. Mm-hmm. » Mais le montage est tellement rapide. Coupe.
Ça, c'est lourd.
À aucun moment, tu fais « Ben, j'y crois pas. » Parce que si tu coupes, c'est parce que tu prends un meilleur moment là, mm-hmm. puis c'est parce qu'ils sont pas capables d'enchaîner les deux moments.
Ouais.
Fait que les petits placeurs, tu sais, quand t'es un raconteur d'histoire. Fait que, bref, ça, c'est mon... Je nerd quand je, mettons, pas nécessairement un intérêt pour le film. Je trouve mon intérêt dans l'espèce de racontage d'histoire, mais c'est ça, quand vous trouvez un titre, ben, faut qu'il fasse du sens, faut que ça, les mm-hmm. personnages le méritent, puis ne pas oublier, si c'est une réimagination du film... Ben, fais-le comme... C'était quoi l'essence des personnages? Mm-hmm. Puis après ça, regarde ton histoire puis vas-y avec l'essence de ton personnage à toi. C'est plus dans la série 1.
Exact.
C'est juste comme... Maintenant, c'est un autre film. Même si ça a le même titre, à la limite, ça pourrait avoir un autre titre.
Puis justement, pour conclure rapidement, parce qu'il nous reste seulement encore une minute, ça me fait penser à comment ça fonctionne lorsque tu fais une adaptation au cinéma. L'une de mes adaptations préférées, c'est Old Boy, qui est un film qui est sud-coréen. C'est l'adaptation d'un manga. Et bien que l'histoire est sensiblement similaire, au final, c'est le feeling qui est allé chercher. Donc, l'histoire n'est pas la même du tout. C'est juste la sensation que le manga te procurait qui est allé chercher. Il est allé dans l'émotion. Puis particulièrement lorsque tu vas parler d'un truc où c'est de la danse, ben, la danse, c'est censé être là pour nous apporter des émotions. C'est censé nous apporter, ben, comme tu l'as dit, ce sentiment de majestueux. Donc, si ton film, il n'y a aucun moment où tu as un plan qui t'apporte ça, ben, tu as un peu, en parenthèse, échoué en tant que réalisateur parce que... Ben, ton film est censé parler de danse, sauf qu'au final, tu ne traites pas de la danse. La danse, c'est censé être majestueux, c'est censé t'apporter une émotion. Tu n'as pas ça. Tu ne parles pas de danse.
Non, c'est ça. Quand tu fais un pastiche d'une histoire, check c'est quoi les différents cas. Tu dis, OK, il faut que je check ça. Mais une fois que c'est checké, exploite ton sujet. Il faut qu'on le voie, il faut qu'on le sente. Détache-toi de l'autre, puis fais ton projet.
Et donc, si peu de temps, tellement de choses à faire, on se dit à la semaine prochaine. Écoutez, on va avoir toujours plus de faits divers intéressants. Peut-être même qu'on va parler prochainement de films. Dans mon cas, je sais que j'ai beaucoup parlé de jeux vidéo. Je veux commencer à me diversifier un peu parce que le seul jeu vidéo auquel je joue en ce moment, c'est Elden Ring. Et donc, je vais finir par tomber à court de sujet. Et on se dit à la semaine prochaine pour des Kiwi des Nerds.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800 465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tirez le balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le bon!
Dimanche, 15h, vos Remparts reçoivent les Saguenay de Chicoutimi au Centre Vidéotron. On vous donne rendez-vous dès 14h45 pour l'avant-match. Remparts contre Saguenay, samedi 15h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.